Continuant de parler en parabole, Jésus reprit en ces termes. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui célébra les noces de son fils. Et là, Jésus, dans ses paraboles, hein, le maître de la vigne envoie son fils bien-aimé. Et il va parler à son père. Dans la semaine sainte, relevé et relevé encore, Jésus est le Verbe. Il est le miroir de la substance de l'Éternel, le Père. Il est coéternel, égal à son Père, mais il est la parole du Père. Et en tant qu'il est parole du Père, exprimée par le Père, il est le Fils. C'est pour ça que nous sommes trinitaires. Et le Fils et le Père s'aiment de toute éternité, c'est l'Esprit Saint. Mais que on ne nous dise pas que Jésus n'a pas enseigné la Trinité, parce que le mot théologique a été forgé plus tard. Jésus parle de son Père et du Fils sans arrêt. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, au mariage de son Fils. Mais ceux-ci refusèrent de venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs chargés de leur dire de sa part « Voici que j'ai préparé mon festin, on a tué les bœufs et tous les animaux que j'avais fait engraisser. Tout est prêt, venez aux noces. » Sans tenir nul compte de l'invitation, les conviés s'en allèrent. Celui-ci à sa ferme, celui-là à son négoce, à son travail. D'autres même s'emparèrent des serviteurs. Qu'est-ce qu'ils nous font la leçon ? Et après les avoir accablés d'outrage, ils les tuèrent. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur, semblable au vôtre. C'est très vrai. Mais voyez-vous, à un moment donné, il y a des choses plus violentes. Hein? Et la semaine sainte, c'est un peu moins sucré. Et à un moment donné, les hommes, dans le péché, ils sont pas sucrés du tout. Et ils tuent. Ils tuent les prophètes, ils tuent les prêtres. À la Révolution française, on tuait les prêtres. À la guerre d'Espagne, on tuait les prêtres. Les nazis ont tué les prêtres. Parce qu'ils n'obéissaient pas au Reich. Vous avez les plus grands cimetières de prêtres sont dans les camps de concentration, en Pologne. Et parce que les prêtres catholiques n'obéissaient pas à l'occupant allemand. Alors on va vous dire, oui, mais certains, c'était parce qu'ils étaient polonais et que les Allemands et les Polonais se détestaient. Mais vous avez aussi beaucoup de prêtres qui ont lutté contre l'envahisseur parce que l'envahisseur était païen et très cruel. Et alors que c'est pour ça d'ailleurs que dans les années 50-60, on a inventé que Pie XII avait collaboré avec les nazis, alors que c'était lui-même qui avait écrit l'encyclique de Pie XI contre le paganisme nazi. Oui. Mais tout ça, c'est menté. Mais seulement, voyez-vous, à la fin des temps et dans la colère de l'agneau, ça fera partie. Hein. Toutes les calomnies contre l'Église catholique, hein, tout ça, ça fera aussi partie de la colère de l'agneau. Pour l'instant, on se laisse insulter. Hein, on laisse dire « Ah oui, mais vous êtes des pédophiles. » Oui, eh bien qu'on fasse des dossiers. Hein. Que le journal La Croix ait le courage de faire un dossier sur les pédophiles, pères de famille et oncles. Et le phénomène incestueux, 80% des pédophiles sont des incestueux. Ensuite, les professions de l'enfance. Hein, et puis les 0,05 ou 0,01% de prêtres criminels, parce qu'il faut bien qu'il y en ait. Et qu'on exhume, là, comme Mediapart, où ils ont 35 pédophiles. Mais quand vous lisez l'article, c'est pas des pédophiles, puisque vous avez les pédophiles au sens propre, c'est des enfants impubères, hein, qui n'ont, avant la puberté, donc c'est avant 8-12 ans. Hein, et là, ils vous présentent des cas avec des jeunes hommes, des hommes de 15-18 ans, ou alors avec des femmes. Un des cas, c'est un homme qui a, c'est un prêtre directeur d'une école qui a violé des institutrices. C'est un cas de pédophile, ça, de pédophilie. Mais on se fout du monde. Vous voyez? Mais 35 de 1945 à nos jours, hein, sur l'après-guerre, 35 prêtres français, hein, sur toute cette période, ça correspond à au moins 30 000 prêtres, 40 000 prêtres. avec les générations qui meurent et qui se succèdent. Mais disons, ça fait pas lourd. Hein. C'est incroyable. Hein. Eh bien, ayant appris cela, le roi, outré d'indignation, donna l'ordre à ses soldats d'exterminer ces meurtriers, et là, c'est pas le chanoine Weber qui brode, et de brûler leur ville. C'est Dieu hein, qui décide ça. Puis il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais ceux qui étaient conviés n'en étaient pas dignes. Parcourez donc les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous rencontrerez. » Les serviteurs se répandirent dans les rues, dans tous les pays du monde, les missionnaires sont partis. Réunir tous ceux qu'ils trouvèrent. Des Esquimaux, des aborigènes, des Gaulois. Bon et mauvais, et la salle des noces fut remplie de convives. Or, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Ayant remarqué un homme qui n'était pas vêtu de la robe nuptiale, vous voyez, de nos jours, ben, je ne sais pas, ça serait haute forme et costume trois pièces, non, pour un mariage. Et là, on est en tunique blanche. Et lui dit, mon ami, ah, Dieu se calme, il devient gentil à nouveau, voilà. Mon ami, comment es-tu entré ici sans la robe nuptiale? Cette phrase est très importante. Ça veut dire que Dieu est tout prêt à lui pardonner d'être mauvais, pécheur, et d'être dans la salle des noces. Mon ami. Celui-ci garda le silence. Je m'en moque de ne pas avoir la robe nuptiale. Je suis là pour manger. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Alors cette dernière phrase a été interprétée de manière la plus stricte possible par les jansénistes en disant qu'il devait y avoir 1% d'humanité qui allait se sauver. Eh bien, Dieu ne nous a pas dit qui se sauvera. Et puis de toute façon, de nos jours, tout le monde ira au paradis. Eh bien non, apparemment pas. Ainsi, chacun de ces jours, il enseignait dans le temple. Quand venait la nuit, il sortait de la ville et se dirigeait vers le mont des Oliviers. Toute la semaine sainte, lundi saint, mardi saint, mercredi saint, jeudi, et là, il va anticiper le repas pascal qui devait avoir lieu, c'est discuté, hein, le samedi ou le vendredi. Le jeudi soir, il fait le repas pascal et il meurt mystiquement avec le pain et le vin. Le vendredi, c'est le repas pascal sanglant où l'agneau de Dieu est sacrifié. Et cela remplace le sabbat, qui était un grand sabbat cette année-là, puisque c'était le repas pascal rituel. Mais Jésus accomplit la Pâque le jeudi soir et le vendredi. Et du coup, remplace le samedi. Alors, commentaire. Le lendemain matin, les disciples virent en passant le figuier du lundi saint, desséché jusque dans ses racines. Plein d'étonnement, ils se disaient « Comme il a séché vite !» Et Pierre, se souvenant de la parole de Jésus, s'écria « Maître, le figuier que vous avez maudit, voilà qu'il est mort !»« Ayez foi en Dieu, répondit Jésus, je vous le dis en vérité. » Si vous aviez assez de foi pour ne pas hésiter en vous-même, non seulement vous feriez comme je viens de faire à ce figuier, mais si vous disiez même à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi dans la mer », il en serait ainsi. Ouais, c'est bien triste. Hein. Des saints à miracles, il pourrait y en avoir plein. Des saints curés d'Ars, il pourrait y en avoir plein, apparemment. Oui. Oui, si quelqu'un dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera, pourvu qu'il n'y ait aucune hésitation dans son cœur, on est compte, et qu'il croit qu'il lui suffit de commander pour que cela se fasse. Seigneur, que les pouvoirs les autorités publiques de la France soient chrétiennes, et ça serait l'Israël. Eh oui. C'est pourquoi je vous déclare, parce qu'il est plus facile de me foutre une montagne, de mettre une montagne dans la mer que de convertir les autorités publiques françaises, mais c'est tout à fait possible. C'est pour ce quoi je vous déclare, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez et vous serez exaucé. Mais lorsque vous vous disposez à prier, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Là, vous avez une parabole, hein, à un autre moment qu'on a déjà lu, pour ceux qui étaient là, où Jésus, c'est celui qui avait une dette terrible, et le maître la lui remet. Et ensuite, il a lui-même a une petite dette vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et l'étrangle. Et bien là, le maître le fait rappeler et l'étrangle et lui fait rendre toute sa dette qu'il lui avait remise. Et là, Jésus leur dit, « Si vous ne pardonnez pas, mon Père ne vous pardonnera pas. » Et ici, c'est un lieu isolé où Jésus le redit. Donc le cœur de la foi chrétienne, ce n'est pas mon côté un peu vétérotestamentaire et prophète Élie et mon zèle, c'est plutôt le pardon. Donc je suis mauvais chrétien et trop agressif. Mais voilà, c'est pardonnez-vous ou vous allez le regretter. C'est le paradoxe évangélique. Aimez-vous, pardonnez-vous ou je vous casse la gueule. C'est quand même le message profond de Dieu. Réduits au silence, les pharisiens s'étaient concertés pour trouver le moyen de surprendre Jésus dans ses paroles. Se tenant eux-mêmes en observation, ils lui envoyèrent alors des Hérodiens. Hein, c'est comme les publicains, c'est ceux qui collaboraient avec l'occupant romain. Quelques-uns de leurs disciples, qui, feignant d'être justes, lui tendraient des pièges sur leurs questions, par leurs questions insidieuses, afin de le livrer aux magistrats et au pouvoir du gouverneur Ponce Pilate. S'étant donc approché de Jésus, ceux-ci lui dirent « Maître, nous savons que vous parlez en toute droiture et que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité, sans vous inquiéter de qui que ce soit, car vous ne considérez pas la qualité des personnes. Dites-nous donc ce qu'il vous semble de ceci. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César et de collaborer avec l'occupant nazi ?» Jésus, pénétrant leur malice et leur duplicité, « Hypocrite !» leur dit-il, « Pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie du tribut, que je la vois. » Ils lui présentèrent un denier. « De qui est cette image ? » demanda-t-il. « De qui est cette inscription ? » « De César, » répondirent-ils. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ne pouvant incriminer cette réponse devant le peuple, ils en admirèrent l'habileté, gardèrent le silence et se retirèrent. Ce même jour, des Sadducéens, donc ceux qui nient la résurrection, vinrent lui poser cette question. Maître, Moïse a écrit dans notre loi, si un homme meurt sans laisser de fils, que son frère épouse sa veuve et suscite au défunt une postérité. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier ayant pris une femme, mourut sans enfant. Et laissa sa femme à son frère. Le second, l'ayant prise, mourut également sans enfant. Il en fut de même du troisième. Enfin, tous les sept prirent cette femme et ne laissèrent pas de postérité. La femme mourut la dernière de tous. Au temps de la résurrection, quand tous auront recouvré la vie, auquel des sept appartiendra-t-elle? Car tous les sept l'ont eue pour épouse. Vous êtes dans l'erreur. Et vous ne comprenez rien, vous êtes des andouilles. Ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les enfants du siècle présent prennent des épouses et sont donnés en mariage. Mais que ceux qui seront trouvés dignes du siècle à venir, à la résurrection des morts, ne prendront pas les uns des femmes, les autres des maris, car ils ne pourront plus mourir. Le mariage est lié à la possibilité d'enfanter pour perpétuer la nature humaine. Et il est lié aussi à notre nature spirituelle et à l'amour humain. Mais il y a une dimension corporelle et terrestre du mariage. Qu'est-ce qu'il restera dans la vie éternelle alors, puisque Dieu nous redonne un corps? Eh bien, le fait que notre nature humaine soit restaurée et belle, et que nous puissions nous voir aussi avec notre visage et notre corps. Mais il n'y aura plus de plaisir sensible, intense, comme celui de l'acte sexuel. Oh, ben oui. Si vous n'êtes pas content. Ils seront donc comme les anges dans le ciel. Ils seront les enfants de Dieu, puis ils seront les enfants de la résurrection. Quant à la résurrection des morts, là, il détruit les Sadducéens, là. Jésus, doux et humble de cœur. Elle est enseignée par Moïse lui-même. Et comment? N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse comment au buisson ardent Dieu lui dit, ainsi qu'à vous, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent devant lui, donc vous êtes dans une grande erreur. » Et ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants. Et les Sadducéens qui ne croient pas en la vie après la mort. Au passage, Jésus affirme que la Genèse a été écrite par Moïse. Vous voyez, enfin la Genèse. Ici, enfin oui, la partie de la Genèse. Dans le livre de Moïse. Le peuple qui entendait tout cela était émerveillé d'une telle science. Et même quelques scribes, donc des savants qui étudiaient les Écritures, élevant la voix, s'écrièrent « Maître, vous avez bien dit voilà. !» Pour les Sadducéens, ils n'osèrent plus lui poser d'autres questions. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment, saint Paul va opposer les pharisiens et les Sadducéens en disant « Ils veulent me tuer parce que moi je dis que Jésus est ressuscité et ils ne croient pas en la résurrection. » Alors du coup, les Sadducéens, ben non, il n'y a pas de résurrection. Mais les pharisiens disent, ah ben si, il y a de la résurrection. Et ils se disputent. Et pendant ce temps-là, saint Paul est tranquille. Les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit les Sadducéens au silence, s'assemblèrent et lui adressèrent un des scribes qui venait d'applaudir à sa réponse. Ça, c'est brodé par Chanoine Weber. Hein. Celui-ci, qui était docteur de la loi, lui posa cette question dans le dessein de l'embarrasser. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi, le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, par la parole de Moïse, hein, « Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Tel est le premier et le plus grand commandement. Le second est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là, il renferme toute la loi et les prophètes. » Fort bien, reprit le scribe, vous êtes dans la vérité en disant que Dieu est un et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'on doit l'aimer de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toutes ses forces, et qu'aimer son prochain comme soi-même, et il rajoute, parce qu'il connaît très très bien les Écritures, qu'il c'est un saint homme, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est-à-dire, c'est plus important, si vous voulez, d'aimer son voisin, sa famille, que de faire un pèlerinage. Eh oui. Ou que de payer son dîner du culte. Quoique. Hein. Et là, Jésus lui répond. Voyant que ce scribe avait parlé avec sagesse, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et nul parmi les pharisiens n'osa plus l'interroger. Ce qui est très important dans ces combats et ces conflits, c'est pour moi, c'est ça la Semaine Sainte aussi. C'est le pourquoi de la scène du Jeudi Saint et du Vendredi Saint. Parce que tout ce qui est douloureux, tout ce qui est du chemin de croix, vous le connaissez. Mais là, ce que je vous expliquais ce soir, c'est pourquoi le chemin de croix. Et pourquoi le repas de Pâques. C'est éminemment, si vous voulez, l'accomplissement des promesses faites au peuple juif, au peuple hébreu. C'est pour ça que nous sommes de religion juive. Les catholiques sont les vrais juifs. Vous m'avez dit, mais alors les synagogues qui entourent le quartier, là, eh bien, il leur manque le Messie. Tandis qu'ils continuaient d'enseigner dans le temple, ils se réunirent autour de lui. Mais Jésus les interrogea. « Que vous semble du Christ, le oint ?» leur demanda-t-il. « De qui est-il le fils ?»« De David !» répondirent-ils. Vous voyez, ils connaissent bien leur foi. Comme sainte Marthe qui dit « Ah mais mon frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc c'est le catéchisme. Eux, ils connaissent bien leur catéchisme. Le Christ, il est descendant de David. « Comment donc, reprit Jésus, en s'adressant à la foule, fait-il entendre ce qu'enseignent les scribes quand ils disent que le Christ est fils de David ? Comment donc faut-il entendre qu'il est le fils de David ? David lui-même, en effet, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est dans l'Évangile, David lui-même, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'appelle son Seigneur. David dit de son descendant qu'il est son Seigneur. Lorsqu'il dit au livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. Donc, si David appelle le Christ son Seigneur, pour quelle raison et de quelle manière est-il son fils ? Nul ne put lui répondre et ne s'aventura plus dès ce jour à lui adresser des questions, mais toute la foule du peuple l'écoutait avec joie. David l'appelle son fils pour sa descendance, mais il l'appelle son Seigneur parce qu'il est Dieu. Et Jésus, là, va le dire, comment dire, c'est comme avant qu'Abraham fût, je suis. Là, dans cette question, c'est la cause de sa condamnation à mort par le Sanhédrin. Mais déjà, il leur dit. Alors Jésus, voyant tout le peuple attentif, dit à la multitude et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent. La morale. Mais méfiez-vous d'eux avec soin et ne les imitez pas dans leurs œuvres, car ce qu'ils disent, ils ne le font pas. Ils attachent sur les épaules des autres des fardeaux pesants et intolérables qu'ils ne veulent pas même remuer du doigt. C'est pour ça qu'il est important que les prêtres soient consacrés, à mon avis. Parce qu'on peut imposer aux autres la chasteté, si nous, nous la vivons. Mais ça, c'est un conseil évangélique. Mais de toute façon, si on se marie, on devra être fidèle et avoir des enfants. On ne pourra pas se séparer, et puis on ne pourra pas dire « Oh là 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 là, deux enfants, c'est suffisant. Oui. » Ah non. Monsieur le curé, comment se fait-il que vous n'ayez pas au moins sept enfants ? Vous avez un problème ? Madame est fatiguée, madame est malade peut-être. Mais oui, vous voyez, comment dire toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes, portant de plus larges phylactères et des franges plus apparentes, comme ils affectent de marcher avec de longues tuniques. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue dans les lieux publics et que les hommes leur donnent le nom de rabbi. Pour vous, ne désirez pas être appelé maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez donc plus personne ici-bas votre père, car vous n'avez qu'un père qui est dans les cieux. Dommage pour la coutume de monsieur l'abbé, abbé, abba, c'est père, mon père, je ne sais pas comment on a pu transgresser ça. Enfin, maintenant que c'est fait. Qu'on ne vous appelle pas non plus docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur qui est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et là, doux et humble de cœur. Malheur donc à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez pas, et ceux qui se présentent pour entrer, vous les en empêchez. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves par les formules allongées de vos feintes prières. Pour cela, vous subirez un jugement plus rigoureux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui courez les mers et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, de l'enfer, deux fois pire que vous. Malheur à vous, guides aveugles, vous dites, si un homme jure par le temple, ce n'est rien, mais s'il jure par l'or du temple, il doit ce qu'il a juré. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, de l'or ou du temple qui sanctifie l'or, hein, l'argent donné pour les veuves et les orphelins, normalement. Si un homme jure par l'autel, ce n'est rien, mais s'il jure par l'offrande placée sur l'autel qu'il doit donner au prêtre, il doit ce qu'il a juré. Aveugle, lequel est le plus grand, de l'offrande ou de l'autel qui sanctifie l'offrande? Or, quiconque jure par l'autel, jure en même temps par l'autel et par tout ce qui est sur l'autel. Et quiconque jure par le temple, jure à la fois et par le temple et par celui qui en fait sa demeure. Et quiconque jure par le ciel, jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous acquittez la dîme de la menthe, de l'anis, du cumin, de la rue et des moindres graines, et vous abandonnez les points les plus graves de la loi, la justice, l'amour de Dieu, la miséricorde et la foi. Ces choses, il fallait les accomplir et ne pas omettre les autres. Guides aveugles, vous arrêtez au filtre un moucheron et vous avalez un chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans vous êtes plein de rapines et de souillures. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord le dedans de la coupe et du plat, puis tu auras soin que le dehors soit également purifié. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Ainsi, au dehors, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous élevez des tombeaux aux prophètes, vous ornez les monuments des justes et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas été complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez-vous aussi la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous la condamnation de la géhenne? Vous comprenez mieux le Vendredi Saint? Ils en avaient gros sur la patate, eux aussi, hein. Et voici que moi-même je vous envoie des prophètes, des sages et des docteurs. Mais vous massacrerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues, vous les poursuivrez de cité en cité, en sorte que sur vous retombera dans tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis celui du juste Abel jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le déclare, tous ces crimes retomberont sur cette génération. Voyez, c'est vrai pour les pécheurs de l'époque, et c'est vrai pour nous maintenant. Au passage, hein, Jésus authentifie Abel, hein, pas comme une légende, hein, mais comme une personne qui a vraiment existé et qui a vraiment été tuée. Et là, voyez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux hommes et à toute l'humanité, hein, quand je vous enverrai des missionnaires, quand je vous enverrai des saints, vous les mettrez en prison et vous les tuerez. Voyez, comme en Espagne ou comme en France. Parce que cette parole s'applique toujours. Voyez, parce que Jésus est Dieu et Jésus nous annonce l'avenir. Et pas seulement pour les mauvais Hébreux de l'époque, mais pour tous les mauvais hommes de toutes les époques. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu. Et voici que votre maison abandonnée restera déserte. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous avez, maintenant je passe simplement en faisant les titres, hein. Annonce de la ruine du temple. Jésus venait de sortir du temple et il s'en allait. Page 371. Ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer la structure de cet édifice. Maître, lui dit l'un d'eux, voyez donc quelle pierre et quelle construction. Et les autres vantaient ses larges assises et son ornementation. Vous voyez toutes ces constructions magnifiques, répondit Jésus, vous voyez tout cela. Eh bien, je vous le dis en vérité, des jours viendront où cet édifice sera entièrement détruit. On n'y laissera pas pierre sur pierre. Ils arrivèrent sur le mont des Oliviers et Jésus s'assit en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André s'approchèrent de lui et l'interrogèrent à l'insu des autres. Quand ces choses arriveront-elles, la destruction du temple? Dites-le nous, maître. À quel signe verra-t-on qu'elles vont s'accomplir? Comme aussi, quel sera le signe de votre avènement et de la consommation des siècles? Parce qu'on voudrait être ministre, ce sera une étape, je suppose. On le reconstruira tout juste après. Ça va être malheureux, quand même. En réponse à leur question, Jésus commença ainsi. Prenez garde que personne ne vous séduise, car le jour approche où plusieurs viendront en mon nom et diront, c'est moi le Christ, le temps est arrivé. Donc des antéchrists, on va en avoir une flopée, hein, je vous assure. Hein. Et ils en sidueront un grand nombre. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez ? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, de combat, de sédition. Gardez-vous alors de vous épouvanter, de vous troubler et même de craindre. Ah. Car il faut qu'il en soit ainsi d'abord, mais ce ne sera pas encore la fin. Et il ajouta, on verra se soulever nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux de grands tremblements de terre, des pestes, des famines, des signes terribles dans le ciel et de grands prodiges. Ce ne sera là encore que le commencement des calamités. Mais avant que tout cela n'arrive, on se saisira de vous. On vous persécutera, on vous accablera de tribulations, on vous jettera en prison, on vous traduira devant les tribunaux, on vous flagellera dans les synagogues et on vous tuera. Prenez donc bien garde à vous. Vous paraîtrez devant les rois et les gouverneurs à cause de moi et de mon nom. Et cela vous arrivera afin que vous me rendiez témoignage devant eux. Gravez bien ceci au fond de vos cœurs. Lorsqu'ils vous traîneront et vous livreront ainsi, ne vous préoccupez pas de ce qu'il faudra dire, ni de la manière de répondre. Ce qui vous sera inspiré à l'heure même, vous le direz. Je mettrai sur vos lèvres une parole, une sagesse, à laquelle vos ennemis ne pourront rien répondre, ni rien opposer. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. En ce temps-là, beaucoup failliront, se trahiront et se détesteront les uns les autres. Le frère livrera son frère à la mort et le père son fils. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous-même, vous serez livrés par vos parents, par vos frères, vos alliés et vos amis et ils en immoleront plusieurs d'entre vous. Vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu ne tombera de votre tête. Par votre patience, vous sauverez vos âmes. Alors, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes. Ils en séduiront un grand nombre, et à cause de la recrudescence de l'iniquité, la charité de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, et en témoignage à toutes les nations. Et c'est seulement alors que viendra la fin. Quand vous verrez Jérusalem investie par une armée, sachez que sa ruine est proche. Et quand vous verrez dans le lieu saint, là où elle ne devait pas être, l'abomination de la désolation, prédite par le prophète Daniel, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes, que ceux qui sont dans la ville s'en éloignent, que ceux qui sont dans les régions voisines n'y entrent pas, que celui qui est sur la terrasse se garde en descendant d'entrer dans sa maison pour emporter quelque chose, que celui qui est dans la campagne ne revienne pas pour prendre son vêtement. Ce sera là les jours de la vengeance, où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur à celles qui en ces jours-là seront nourrices, enfanteront, ou sur le point d'être mères, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni les jours du sabbat. Il y aura des tribulations telles qu'il n'y en a pas eu de semblables, depuis le commencement du monde jusqu'alors, et qu'il n'y en aura jamais. Grande sera la détresse de ce peuple et la colère sera sur ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive, où ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et si le Seigneur n'abrégeait ses jours, nul ne serait sauvé, mais il les abrégera à cause des élus qu'il s'est choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des choses étonnantes, de manière à séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Soyez donc sur vos gardes maintenant que je vous ai prédit toutes choses. Si l'on vous dit, voici que le Christ est dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans l'intérieur de la maison, ne le croyez pas. Comme l'éclair jaillit de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Seigneur, demandèrent les apôtres, où cela se passera-t-il? Jésus répondit, partout où sera le corps, là se rassembleront les aigles. La Sainte Eucharistie. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, il y aura des phénomènes prodigieux dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les vertus des cieux seront ébranlées. Dans le monde entier, les nations seront consternées au bruit confus de la mer et des flots. Et les hommes sécheront de frayeur dans l'attente des choses qui devront arriver à tout l'univers. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, la croix. Toutes les tribus de la terre pousseront des cris de douleur, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Il enverra ses anges avec une trompette à la voix retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents de toutes les extrémités de l'horizon. Lorsque ces choses commenceront à se produire, levez la tête et regardez, car votre délivrance est proche. Donc réjouissez-vous. Puis il leur fit cette comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres, quand leurs branches s'attendrissent, que les feuilles viennent de naître et que les fruits se montrent, vous en augurez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le règne de Dieu est proche et qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà. Et ce qui s'est passé à Jérusalem en l'an 70, c'est une prophétie de ce qui se passera à la fin des temps. Vigilance et prière continuelle dans l'attente du Fils de l'homme. Quant au jour et à l'heure, nul ne sait rien, ni les anges du ciel, ni le Fils. Jésus, en tant que Fils, ne peut pas révéler le temps de la fin du monde. Le Père seul les connaît. Veillez et priez. Il en sera de l'avènement du Fils de l'homme comme au jour de Noé. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient, jusqu'au moment où Noé entra dans l'arche. On ne connut pas l'approche du déluge. Il vint et les engloutit tous, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors voilà, d'où voyez-vous maintenant les paraboles que le Seigneur donne et que je passe. Le mercredi saint, on estime que Judas va voir le grand prêtre. En ce même temps, les princes des prêtres, les scribes et les anciens du peuple s'étant réunis dans le palais du grand pontife appelé Caïphe, et ils délibéraient sur les moyens de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils redoutaient surtout le peuple aussi, disaient-ils, que ce ne soit point durant la fête, de peur qu'il ne s'élève quelque tumulte dans la foule. Alors Satan entra dans Judas. Donc là, voyez-vous, le chanoine Weber essaye de placer dans un ordre chronologique, la trahison de Judas, la préparation de la scène, la Pâque, avec Jésus, qui va laver les pieds de ses apôtres avant la Sainte Cène. Jésus dénonce le traître qui s'en va. Ça, c'est la version où Judas ne communie pas, parce que Jésus va faire la transsubstantiation après le départ de Judas, mais on peut discuter de savoir si c'était avant ou après. Le Christ prend le pain et le vin et les transforme, et les apôtres sont encore là à dire qui sera le premier ministre. C'est dans Saint Luc. Dernière discussion des apôtres sur la préséance. Le discours après la scène, le Christ, c'est... Alors là, il parle de son Père, de son amour pour nous, de l'unité dans l'amour. Le discours après la scène est absolument extraordinaire. Il recommande la prière et la foi. Au jardin des Oliviers, notre Seigneur entre en agonie. Et le Père envoie un ange consolateur. Et Jésus va vers sa passion. Voyez. Ainsi, ce que je vous ai dit ce soir, nous pourrions, la prochaine fois, eh bien, nous lirons nous serons dans le temps pascal la prochaine fois. Hein. Le prochain cours est pas tout de suite. Le prochain cours est, vous n'avez plus les pages. Je n'ai plus. C'est le 18 avril. Le mardi de Pâques. C'est le prochain 25 avril. Voilà. Et donc, pour ce soir.